Bon, du coup, on va commencer. Un petit souci technique. Bon. Donc, du coup, Daniel fait partie du CRANS. Je vais vous parler de OpenWRT, de la façon dont on l'utilise ici au CRANS.
Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Comme Ariane m'a présenté, je vais vous parler d'OpenWRT, qui est une distribution Linux et un système d'exploitation pour système embarqué. Premièrement, avant de commencer, je préviens tout de suite que je ne suis pas un développeur d'OpenWRT, ni un développeur Linux, ni de noyau, ni des drivers qui pourraient être dans le noyau. Je suis juste un étudiant, un peu bidouilleur, qui geek. Un crasseux. Cet exposé va surtout parler d'OpenWRT et la manière dont on l'utilise au CRANS, qui est peut-être n'est pas l'unique façon d'utiliser OpenWRT. Nous, on s'en sert en particulier sur les systèmes embarqués qui sont des points d'accès Wi-Fi. Dans un premier temps, nous allons voir l'historique d'OpenWRT et aussi comment a évolué le réseau Wi-Fi du CRANS, puisque c'était assez lié. On regardera ensuite qu'est-ce qu'on a fait comme modification récemment. Ensuite, je vais vous parler de quelques outils qui pourraient vous intéresser si vous êtes membre d'associations qui géreraient aussi le réseau sur des campus. Peut-être que c'est les outils que je vais vous présenter pourront vous paraître utiles. L'historique. On commence en 2003. C'est le tout début du Wi-Fi, on va dire, un grand public. On a Linksys qui commence à produire un nouveau modèle de point d'accès Wi-Fi qui s'appelle la WRT 54G. Alors, ça s'appelle 54G parce que ça faisait du Wi-Fi G à l'époque, donc c'est 2,4 GHz et ça avait une synchro maximum de 54 mégabits, ce qui à l'époque était vraiment pas mal. Très rapidement, une fois la sortie du modèle, des hackers se rendent compte que le firmware qui est présent sur la borne fait tourner une version modifiée de Linux. Licence GPL oblige, les développeurs de chez Linksys doivent rendre le code source modifié public. On voit apparaître de nombreux détournements du firmware, des améliorations, des personnes extérieures à la société Linksys qui cherchent à améliorer le fonctionnement du point d'accès, puisqu'il n'est pas exploité à 100%. Enfin, il y a des fonctionnalités qui peuvent toujours être ajoutées et qui sont utiles. C'est ce que font pas mal de hackers, surtout une fois le code disponible. Donc le Wi-Fi au CRANS, ça commence en 2004, donc c'est tout de suite après. Je pense que le choix à l'époque des WRT 54G en tant que borne Wi-Fi pour couvrir le campus était inspiré de toutes les choses qui étaient déjà disponibles sur les bornes Wi-Fi à cette époque, sur ce modèle. C'est par exemple comme ça qu'au tout début de l'exploitation du Wi-Fi au CRANS, les vieux du CRANS, je parle pas vraiment pour ma part, peut-être que des vieux pourront me corriger si je dis des bêtises, mais a priori c'est ça. Ils utilisent un firmware modifié qui est édité par une entreprise privée qui s'appelle SVOsoft, qui est spécialisée dans l'optimisation de micro-logiciels pour borne Wi-Fi, pour ajouter des fonctionnalités, pour améliorer les performances. C'est pour ça que le CRAN se tourne vers l'utilisation de ce firmware. Au-dessus de ce firmware, qui tourne aussi sous Linux, des nounous du CRANS à l'époque développent plusieurs programmes pour améliorer le fonctionnement du Wi-Fi. Par exemple, des outils pour détecter automatiquement sur quel canal mettre les points d'accès pour optimiser l'occupation des bandes de fréquence. Mais à l'époque, on n'a pas de solution technique pour authentifier beaucoup d'utilisateurs sur un même réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que à l'époque, il y a du WEP, il y a du WPA1, et grosso modo, c'est tout. Et on utilise à chaque fois des mots de passe partagés, ce qui n'est pas une solution envisageable sur un gros réseau Wi-Fi où tout le monde doit se connecter avec, sans se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que au CRANS, les anciens à l'époque sont intéressés à une solution un peu... à l'époque c'était une solution assez ad hoc, on va dire, qui consistait à avoir un réseau Wi-Fi en clair, c'est-à-dire sans chiffrement, sans mot de passe. Et sur ce réseau ouvert, les utilisateurs devaient ensuite initier une connexion type VPN. Donc ici c'était de l'IPsec. Et ça marchait bien, mais il a fallu rajouter de nombreuses protections pour éviter que sur le réseau ouvert, il se passe des choses trop, que l'on puisse facilement brouiller le réseau ou s'y connecter et empêcher les autres d'y avoir accès. Donc il y avait des démons codés en dur dans les bornes Wi-Fi sur le firmware SVEsoft, qui, par exemple, filtraient les adresses MAC, les correspondances MAC IP, etc. Et l'école, à l'époque, qui n'avait pas de réseau Wi-Fi, s'interrogeait sur la sécurité de notre système. Et un audit a été demandé par l'école. Et l'audit a révélé que oui, on avait vraiment un système Wi-Fi sécurisé de cette façon. Même si il présentait quelques difficultés pour configurer, surtout sur les ordinateurs des utilisateurs finaux qui n'y connaissent pas grand-chose en IPsec. Et voilà. En 2005, on s'est quand même posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser un firmware qui vient d'une boîte privée, qui propose, qui fait des modifications dans le noyau Linux également, hein, alors qu'on a des systèmes d'autres des alternatives au firmware pour les WRT 54G. Hein, et en particulier, il y a une alternative qui s'est rapidement dégagée du lot, qui est OpenWRT. Donc c'est également une version modifiée du noyau Linux à partir du firmware originel de Linksys. Mais il possédait plus de documentation. Il était également plus proche d'une distribution Linux classique, donc ce qu'on utilise d'habitude, typiquement Debian. Il était modulaire surtout, donc vraiment comme une distribution, on avait un système de paquets. Et c'était surtout un projet libre. On n'avait pas besoin d'aller acheter des licences auprès d'une boîte privée pour développer et avoir une API pour rajouter nos démons pour sécuriser le réseau ouvert. Donc on a très rapidement migré sur OpenWRT et porté les programmes qui existaient à l'époque, qui surveillent le réseau. Et on avait également d'ailleurs un partenariat avec l'école pour avoir un réseau Wi-Fi de l'ENS cachant sur nos bornes. Et si je ne me trompe pas, on a demandé à un développeur Debian, OpenWRT, de coder cette fonctionnalité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs réseaux diffusés par le même point d'accès pour fournir une connexion également à l'ENS en Wi-Fi. Donc ça, il me semble qu'il y a eu un don, je ne sais pas si c'est un don ou si on a payé un développeur directement pour... D'accord. Voilà, donc OpenWRT, c'était une petite distribution à la base qui fonctionnait uniquement sur les bornes Linksys. Les versions majeures d'OpenWRT, c'est des noms de cocktails. En 2006, il y a eu la première vraie release, date de 2006. Et on a compté déjà 360 paquets, donc des programmes divers qu'on peut installer sur les points d'accès pour le gérer, pour rajouter des fonctionnalités, du DHCP, du firewalling, plein de fonctionnalités liées au réseau. Et très vite, si on regarde les différentes releases d'OpenWRT, le nombre de paquets a très rapidement explosé, puisqu'il y a eu de plus en plus d'usages possibles de ces petits points d'accès. Pas uniquement pour faire du réseau, mais aussi dans le cas des particuliers, de pouvoir installé plein de démons sur les points d'accès, parfois des serveurs de musique pour modder le point d'accès. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans cet exposé, c'est les services qui nous sont utiles, nous, en tant que fournisseurs d'un accès Wi-Fi, donc ce qui est lié au réseau. Donc, première innovation qui est venue quelques années plus tard. Alors là, j'ai plus la date. Ça doit être dans 2008 à peu près. Un autre système d'authentification Wi-Fi est devenu suffisamment standard pour qu'on puisse l'utiliser sur le réseau. Donc, au lieu d'avoir un réseau Wi-Fi ouvert, on est passé à un système où on utilisait le WPA2 entreprise. C'était une vraie révolution à l'époque, puisque du coup on avait vraiment un point d'accès, une configuration côté utilisateur qui était assez standard. Il n'y avait plus besoin d'installer des paquets pour gérer IPsec, etc. Et c'était également plus léger côté serveur, puisqu'on n'avait pas à s'occuper du chiffrement sur un serveur central et à passe d'IPsec. On avait uniquement un serveur Radius, donc encore une solution standard, et une connexion avec notre base de données, et puis voilà. Donc c'était facile d'usage. Et surtout, là on se rend compte qu'on est devenu vraiment... on avait un vrai apport par rapport à OpenWRT, puisque le firmware initial des Linksys ne permet pas de faire du WPA2 entreprise. Il permet juste de faire du chiffrement standard pour borne grand public. Alors qu'en fait, avec ce système de points d'accès, qui est un point d'accès pour particulier, on obtient tous les services qu'on pourrait rechercher avec des points d'accès professionnels. Et pour les personnes qui se posent des questions sur la compatibilité, en interne, ça fonctionne avec un démon qui s'appelle HostAPD, qui s'occupe de l'authentification pour le WP d'entreprise. Et HostAPD, c'est un projet qui est commun avec l'authenticateur, qui est également sur les clients sous Linux. Donc, la probabilité que cet authenticateur fonctionne correctement avec HostAPD est grande. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui contribuent à la fois au développement d'HostAPD et de la partie authentification sur les clients. Donc, les protocoles sont en général bien implémentés. Pour ceux qui connaissent, sous Linux, c'est WPA Supplicant qui s'occupe de l'authentification. Et en général, en tâche principale, on voit Network Manager qui fait des appels à ce programme. On remarque également qu'on a des problèmes toujours, et uniquement liés à la partie qui restait fermée du code source des bornes Wi-Fi. Donc, par exemple, les puces Wi-Fi sur les Linksys étaient toujours closed source. Vu qu'il n'y avait pas de nécessité de fournir le code source. Donc le firmware, par exemple, nous était inconnu de ce point de vue-là. Et on a observé pas mal de soucis uniquement sur cette partie qui restait fermée dans les Linksys, qui est la connexion Wi-Fi elle-même. Et par exemple, on a observé des problèmes de mise en cache, c'est-à-dire que quand des personnes se connectaient en Wi-Fi mais avec des mauvais identifiants, le driver mettait ensuite en cache les erreurs et les gardait. Et c'était vraiment cette unique partie du firmware qui était fermée, c'était une grosse épine dans le pied. Et c'est comme ça qu'on a, se passer de ces firmwares proprio avec l'apparition de Backfire, qui était la troisième version de OpenWRT. Et surtout une intégration plus concrète à la couche Wi-Fi du noyau Linux lui-même. Donc ça permet d'utiliser des outils beaucoup plus standards pour gérer les clients sur des points d'accès, puisque maintenant tout passe par cette couche Wi-Fi, et puis chaque driver ensuite implémente les fonctionnalités qui sont nécessaires. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dû faire en ce moment? Alors récemment, on s'est rendu compte que nos points d'accès, depuis 2003, c'est quand même du matériel assez ancien, Et très rapidement, on a commencé à avoir, enfin très rapidement, au bout de 5-6 ans, des points d'accès qui fonctionnent en continu, ça s'use. Et on a dû donc du coup renouveler le parc au Crans. Donc on cherchait donc des points d'accès peu chers, premièrement, puisque on ne cherche pas à faire à utiliser du matériel propriétaire et qui monte très haut dans les prix pour quelque chose qui on ne sait pas si s'il est accessible aux personnes, il peut être volé, etc. De plus, on ne cherchait pas une solution avec un contrôleur, et surtout on voulait quelque chose qui nous demande peu d'adaptation vis-à-vis de la solution actuelle. Donc on s'est tourné vers des points d'accès. On a choisi une marque de points d'accès. Peu importe le nom, en l'occurrence c'est des Ubiquiti, mais on va vite voir qu'en fait ça a peu d'importance, puisque depuis Backfire, donc c'était quelques années plus tard, Kamikaze même, donc la deuxième version d'OpenWRT. OpenWRT s'est énormément diversifié dans les plateformes qui sont supportées. Et donc si on regarde le matériel qu'on a choisi, on a un noyau Linux sur le firmware initial, donc c'est le même cas que pour les Linksys au final. Une plateforme qui est basée sur un processeur Atheros, le chipset Wi-Fi qui est aussi un Atheros, et même sur le driver initial, on avait déjà un système d'authentification avec HostAPD. Donc en fait, maintenant, quasiment toutes les bornes Wi-Fi qu'on trouve dans le commerce fonctionnent déjà sur un noyau Linux et tout se passe pour le mieux. Et donc c'est extrêmement facile de rajouter un support pour une borne Wi-Fi dans OpenWRT, puisque a priori, on n'aura pas de mal à trouver des drivers qui fonctionnent. Et surtout dans le cas d'Atheros, ici, Atheros possède énormément de drivers libres et qui restent maintenus. Il y a des personnes chez Atheros qui sont embauchées uniquement pour maintenir ces pilotes. On peut utiliser OpenWRT avec des bornes Ubiquiti, on peut utiliser, si on préfère, du matériel plus grand public. Il y a des équivalents qui ressemblent énormément au WRT54G quand on regarde de loin. Il y a différentes marques, TP-Link, Buffalo. Et au final, OpenWRT permet de unifier tout ça. C'est-à-dire qu'avec OpenWRT, on peut installer le même système sur plein de matériels différents. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes solutions que l'on veut envisager pour gérer ensemble un certain nombre de points d'accès. Et la première d'entre elles, c'est le système de configuration de OpenWRT qui est apparu dans Backfire. C'est un système de configuration qui permet de s'abstraire des différents programmes qui tournent sur les points d'accès. Donc ça s'appelle UCI pour Unified Configuration Interface. Donc on peut observer que ça permet d'accéder très rapidement à la configuration d'un point d'accès. Donc je ne sais pas si je peux faire une démo. Ça va être dur. Hop, 10.137.1. Hop. Sachant que je suis branché par câble. Donc ça c'est un point d'accès qui est juste ici, et donc on peut s'y connecter par SSH, exactement comme sur un serveur classique, et on a accès à énormément de variables de configuration, qui sont, c'est le même système de fonctionnement sur tous les points d'accès, tout le matériel. Donc la commande la plus simple c'est d'afficher toute la configuration, et donc on a un arbre de configuration qu'on peut modifier à la volée. Et ensuite, régénérer, enfin relancer les interfaces qu'il faut quand on modifie par exemple la configuration réseau ou relancer le démon qui fait, si on modifie la configuration d'un des démons. Et ce système est disponible sur tous les points d'accès OpenWRT. Donc potentiellement avec tout ce qu'on achète dans le commerce, avec qui a un matériel compatible, on peut avoir le même système de gestion du Wi-Fi. De plus, on a, trois projets différents qui permettent de manipuler toutes ces variables dans un éditeur graphique. Donc il y a trois sites web en gros qui s'installent sur le point d'accès lui-même, qui permettent de le régler, de configurer le point d'accès avec une interface intuitive. Mais cependant, il reste toujours. Je pense que c'est un projet en cours de développement d'un outil centralisé de gestion de ces variables de configuration via UCI. Je pense pas qu'on a encore de release de ce genre d'outil, mais c'est un projet intéressant en soi. Une autre manière de pouvoir de configurer des points d'accès en masse, c'est d'utiliser un protocole qui s'appelle CWMP. J'ai oublié l'acronyme de CWMP. Grosso modo, c'est uniquement. C'est un protocole qui est utilisé par énormément de fournisseurs d'accès pour configurer les box chez les particuliers. Puisque c'est un protocole où c'est le point d'accès qui va demander sa configuration à intervalles réguliers auprès d'un serveur d'autoconfiguration central, qui est en général chez le fournisseur d'accès. Et. Il demande en gros s'il a des configurations à mettre à jour auprès de ce serveur de configuration central. Et celui-ci lui retourne s'il y a des modifications à faire, les différentes variables à modifier. Et toutes ces variables respectent un modèle de données qui est prédéfini. Il y a plusieurs modèles de données différents suivant si on s'intéresse à un point d'accès Wi-Fi, à un routeur, à une box. Ou alors un téléphone placé chez un particulier de la même façon, un téléphone qui fonctionne en VoIP. Donc, il y a énormément de modèles à ce sujet, et le protocole est relativement simple sur le principe. C'est du XML RPC, donc en gros, on envoie des messages XML et on obtient une réponse. Et ça se base sur du HTTP ou du HTTPS quand on veut vraiment une connexion sécurisée pour éviter. De mettre n'importe quelle configuration dans notre matériel. Et du côté d'OpenWRT, on se rend compte qu'il y a un début d'implémentation qui s'appelle FreeCWMP. Donc si vous intéresse, j'ai des pointeurs vers des personnes qui s'occupent de ce projet et qui veulent implémenter en gros un des modèles de données sur le point d'accès pour qu'ensuite il puisse être utilisé avec n'importe quel serveur d'autoconfiguration. Ça intéresse énormément de monde, par exemple des personnes qui veulent remplacer leur box chez eux par un routeur à eux. Mais ça nous intéresse également nous pour choisir à la volée quelle est la configuration à mettre sur nos bornes Wi-Fi. Et l'autre intérêt, ça serait de même faire cohabiter des points d'accès sur OpenWRT et des points d'accès, par exemple, je crois que chez Cisco, les points d'accès sont implémentés de ce protocole. Donc ça permettrait de gérer de manière unifiée non seulement des routeurs sur OpenWRT, mais aussi des routeurs sur du matériel qui supporte aussi CWMP. Et il y a encore plein d'autres outils centralisés, puisque parmi les 3500 paquets, on a énormément de programmes de gestion qu'on retrouve déjà sur quand on fait de l'administration du système sous Linux. Donc premièrement, très récemment, là, il y a eu un support pour PacketFence, qui est un outil de gestion des connexions. Ça permet de faire à la volée des autorisations d'accès pour des personnes qui se connectent sur, par exemple, dans la fac, lors d'un événement. PacketFence permet de faire des portails captifs, mais contrôlés. Donc, ça utilise des solutions à base de HostAPD et Radius pour l'authentification. Et sinon, donc énormément de paquets de projets libres qui sont déjà packagés pour Attitude Adjustment, qui est la dernière version d'OpenWRT à l'heure actuelle. Donc par exemple, on peut faire du SNMP, on peut faire du monitoring avec Monit ou avec Zabbix. On peut avoir du monitoring graphique avec Munin. On peut également récupérer tous les logs qui viennent des bornes Wi-Fi et les centraliser avec syslog. Donc comme je disais, ça regroupe tout ce qu'on peut trouver dans un Linux classique, dans une distribution GNU Linux classique, pour administrer des points d'accès de manière centralisée. Alors mes conclusions au sujet de cette distribution, c'est que par rapport à un système, par rapport au micro-logiciel qui est fourni de base, OpenWRT n'a pas grand-chose à envier vis-à-vis de ce firmware. La plupart des programmes sont les mêmes par rapport à ce qu'on trouve dans le firmware initial. Et pour ce qui est des petites optimisations qui peuvent être proposées par le constructeur, en général, c'est des choses qui sont de toute manière présentes upstream. Par exemple, dans le cas d'Atheros, en général, ce qu'on trouve sur ce qui est proposé par les chipsets Atheros pour le Wi-Fi, même les fonctionnalités de MIMO et compagnie, sont présentes dans les drivers libres également. Donc, pourquoi se priver ? Donc, ça, c'est un conseil également que j'aurais pu donner, qu'on donne en général pour pour l'achat d'ordinateurs portables, de choisir du matériel qui supporte des pilotes libres. Mais en fait, là, c'est exactement le même problème. Et je pense que choisir du matériel dont le support des pilotes est, dont les pilotes sont libres est le critère de choix le plus important pour choisir du matériel, éviter d'être par la suite obligé de rester sur un même constructeur pour conserver les outils proposés par ce constructeur. Et enfin, en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne les outils de gestion centralisée, je vous ai présenté quelques outils qui me paraissent intéressants dans la gestion d'un grand réseau Wi-Fi. Mais il faut avouer tout de même qu'il reste un développement à effectuer sur ces outils. Et ce n'est pas des choses particulièrement compliquées, comme on peut le voir. Grosso modo, c'est dans le cas de CWMP, c'est de la programmation assez... on peut programmer dans n'importe quel langage de programmation qui tourne sur des points d'accès, donc du Python, du Bash, des trucs plus haut niveau, plus bas niveau, pardon. Il faut toujours... Il y a toujours un besoin, de ce point de vue-là, de développement, qui, je pense, envisageable par une grande partie de personnes. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.